Scrapping plus crapaud égale scrapaud, le podcast du gros hacking pour débuter. Bonjour à tous, bienvenue sur ce cinquième épisode de Scrapaud. Aujourd'hui, je reçois Théo Lefort, qui est mon maître, mon sensei en automatisation, et qui va nous en apprendre un petit peu plus sur un petit peu son parcours. Il va nous expliquer ça vite fait. Alors, je dis vite fait, parce qu'autrement, le podcast va durer une heure, donc je lui mets directement les limites, parce que je sais qu'il est très bavard. Donc, ouais, vite fait. Bonjour Théo.
Bonjour Jérôme.
Première question, c'est la tradition dans le blog Scrapaud. Comment tu peux expliquer l'automatisation à un enfant de 10 ans?
Alors, j'aime bien commencer par des analogies assez rapidement pour expliquer ce qu'est une automatisation. Si j'avais un enfant de 10 ans, il fallait que je trouve du coup des choses qu'il arrive à conscientiser et conceptualiser. Donc, je commencerais principalement par lui dire, ok, imagine un robot qui permet de faire des choses à ta place. Donc, toi, par exemple, tu dois faire ta chambre, faire ton lit tous les matins. Et du coup, ça te permet, en fait, de créer un petit robot qui va faire les tâches à ta place. Donc, faire ton lit à ta place le matin. Tu peux, justement, si on veut aller plus loin dans la description de cette automatisation, une description, ça va être, en gros, tu vas, à un moment de temps, devoir un déclencheur. Tu vas, tous les matins, quand tu vas te lever, ça va être ton déclencheur pour faire ton lit. Mais là, c'est pareil. Une automatisation, c'est un déclencheur, et deux, une ou une suite d'actions. Donc là, si on reprend l'exemple de faire son lit, donc tu te lèves, tu fais ton lit. Donc tu te lèves, c'est le déclencheur. Tu fais ton lit, c'est l'action. Voilà en gros comment j'expliquerais à un enfant de 10 ans une automatisation.
C'est très compréhensible. Tu te souviens, toi, de ta première automatisation Alors, pas forcément automatisation en apprentissage, mais ton automatisation business.
Alors, je vais un peu broder parce que je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la première que j'ai pu faire. Par contre, là où j'ai implémenté, on va dire, mes apprentissages automatisation il y a quelques années de ça, c'était dans un business, du coup, un de mes business de textile persuadé pour étudiants. Et ça m'a permis, en fait, automatiquement, de récupérer toutes les données donc des étudiants. Donc, en gros, les étudiants remplissaient leurs commandes dans un tableau Excel qui ensuite se transformait en devis. Donc, en fait, c'était une création de devis à partir d'un tableau Excel.
D'accord, un truc classique, rien de très simple.
Plus simples sont les plus intéressantes. En soi, on peut résumer aux trois automatisations les plus simples à mettre en place dans son business qui sont, en gros, envoyer de l'information par un canal. Ensuite, on a le fait de modifier une base de données, un CRM pour les commerciaux, mais ça peut être plein d'autres choses. Et le troisième, c'est créer des documents automatiques. Donc là, j'ai un peu rejoint à peu près les trois parce que du coup, ça permet de récupérer les informations du Excel, les mettre dans un autre outil, du coup, mon outil de base de base de données de création de devis. Ensuite, créer le devis, donc créer le document. Et pour finir, envoyer le document à mon client pour qu'il le valide ou l'invalide en fonction de son envie.
Basique, structuré.
Tout le temps. Le but, comme j'expliquais pour une automatisation pour un enfant de 10 ans, on commence par un trigger, un déclencheur et ensuite la suite d'action. Si vous avez à imaginer et à processer dans votre cerveau comment vos tâches, vos actions donc, que vous faites chaque jour dans votre travail sont organisées, vous aurez beaucoup plus de facilité à justement les découper et savoir quel outil et quelle automatisation mettre en place pour automatiser ces processus-là.
Parce que le piège, finalement, dans l'automatisation, c'est de commencer à utiliser un logiciel comme Make, de regarder toutes les possibilités que l'on peut faire. Et finalement, on ne réfléchit pas en amont à ce que l'on va vraiment automatiser.
Exactement. Tu as bien suivi mes cours. Hein.
Voilà.
Non, l'idée, c'est clairement ça. C'est tu as une problématique et tu pars de cette problématique-là. Alors, il y a deux problèmes à ça. Pas forcément ça. Deux problèmes que je vois souvent chez les débutants, c'est que premièrement, ils veulent automatiser des choses qui ne sont pas automatisées dans leur travail. Donc, principalement, mettre en place des automatisations qui complexifient plus leur business qu'autre chose, ou leur travail qu'autre chose. Donc là, l'idée, c'est vraiment de partir sur un problème profond, des tâches chronophages, répétitives, et souvent sans réelle valeur ajoutée. basé sur ces tâches-là que tu as dans ton travail, tout le monde n'en a pas, ou plutôt tout le monde en a, je dirais, mais tout le monde a un degré différent de complexité, justement, d'automatisation dans son travail. Donc là, l'idée, c'est de trouver ces tâches-là, qui sont répétitives, encore une fois, chronophages et sans valeur ajoutée, d'essayer de les trouver pour les automatiser. Ça, c'est la première chose à mettre en place. Et l'autre erreur que les gens font, du coup, c'est que quand tu commences à automatiser, tu commences à avoir l'addiction d'automatisation. J'ai pu faire ça pendant pas de mes business, à automatiser des tâches qui ne servaient à rien, autrement qui servaient à quelque chose, mais par contre, le faire à la main me prenait moins de temps que le faire sous forme d'automatisation. Donc en fait, soyez rationnel, faites-le à la main dans un premier temps avant d'automatiser. Quand vous voyez que ça prend beaucoup de temps de façon récurrente, etc., dans ce cas-là, vous l'automatisez. Il y a aussi une partie qui est assez importante, qui est outre le temps que ça va gagner, c'est aussi potentiellement une tâche peut être intéressante à automatiser si vraiment ça vous prend du temps de cerveau, en gros de la charge mentale, etc. Ça peut être intéressant justement de l'automatiser.
Et puis, il peut y avoir aussi cette problématique d'outils, c'est-à-dire que tu payes ta licence Make, donc tu te dis, ou Nuiten, ou Zapier, peu importe, et tu te dis, bah, je veux rentabiliser cette licence, et tu t'aperçois que finalement, il existe, je vais prendre un cas tout bête, dans Tally, qui permet de faire des formulaires, tu peux tout simplement envoyer, quand quelqu'un a répondu à un formulaire, directement à un Google Sheet. Là, tu n'as pas besoin de Make pour le faire,
Tout à
mais
fait.
tu peux le faire dans
Ouais.
Make. Et moi, je me suis pris un peu au jeu au départ dans Make. Tu te dis, bah, je vais rentabiliser mes connaissances, puis finalement, tu t'embarques dans des trucs pas possibles, alors que bah, le logiciel de base te permettait de faire une petite automatisation
Tout à fait.
sensée, quoi.
Encore une fois, le but n'est pas de tomber amoureux des outils et de tomber accro et d'être, on va dire, vraiment accro aux outils. C'est dire, OK, chaque outil a ses utilisations et c'est des moments plus opportuns que d'autres pour être utilisé. Comment utiliser les bons outils au bon moment? Le but n'est pas d'en avoir 36 000, mais de trouver justement ceux qui font correctement le travail pour ça.
Alors, on a oublié la partie où tu te présentais. J'étais parti pour te lancer, je fais hop,
Terrible.
mais j'ai oublié moi. Voilà, je suis parti
Tiens, on
directement.
demande ça à la fin, c'est très très bien aussi. Alors moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Maintenant, 2 ans que je suis formateur et environ 6 ans du coup que je fais de l'automatisation. Avant, j'étais grosse. J'ai d'ailleurs été durant les dernières années aussi directeur marketing, mais principalement du coup j'ai fait de l'automatisation dans les 6 dernières années avec du coup automatisation plutôt marketing et commercial au début, jusqu'à partir plutôt dans les processus, donc vraiment automatiser le travail de chaque personne actuellement. Et j'ai à côté de ça quelques business, certains qui tournent tout seuls, d'autres qui tournent moins tout seuls, mais la plupart sont quand même pas mal automatisés. Et le but étant de trouver, on va dire, du temps pour faire plein de trucs de mon côté, principalement de la formation et du coup de l'IA et de l'automatisation, mais aussi potentiellement plein d'autres choses en termes de projet.
Parce que tu peux t'ennuyer vite
C'est un peu le problème, ouais, évidemment. Mais après, déjà, enfin, je pense que j'ai choisi le bon domaine. L'IA et l'automatisation, là, ils sont en plein boom. Du coup, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Au contraire, j'ai presque du mal à me tenir au courant de tout et c'est extrêmement crevant. Et donc, je trouve que je m'en sors pas trop trop mal. Mais c'est la première fois depuis le début que je suis commencé à travailler, on va dire, et à apprendre des choses où je me suis senti, on va dire, enseveli sous la charge de connaissances. Je me suis dit, comment je fais? Et ça s'est passé il y a quelques temps de ça, il y a à peu près un peu plus d'un an. Et du coup, c'est ce qui m'a fait choisir de me concentrer sur plutôt tout ce qui est automatisation de tâches dans l'IA et pas juste sur la partie aussi design de l'IA.
Et justement, tu parlais de veille. Je m'aperçois qu'en effet, enfin, tous les jours, tu as une nouveauté. Tous les jours, il y a quelque chose qui se passe. Comment tu vois et comment tu as perçu les agents IA qu'on peut retrouver dans Make? Alors, je prends Make parce que c'est ce que je connais mieux. Mais on a l'impression que ça va toujours faire tout à ta place. Quel est ton rapport à ça?
Eh ben, j'espère que ça fera tout à notre place. Comme ça, on arrêtera de travailler pour des tafs qui n'ont peu ou pas d'intérêt et prendre plus de temps pour nous et nos familles. Non, blague à part. Pour l'instant, ce n'est pas encore assez au point. J'espère qu'à terme, ça fera quand même beaucoup de choses à notre place. Mais c'est comme plein de choses. Ça se fera, bon, j'espère, pas trop brutalement. Mais pour l'instant, ce n'est pas au point, en tout cas. À terme. Je pense que s'il y arrive à un certain niveau, et je pense d'ici 5 à 10 ans, très facilement, on devrait arriver à remplacer beaucoup, beaucoup de travail possible. Et justement, pouvoir mettre des personnes à des endroits un peu différents dans la société, remettre l'humain au centre, on va dire, de tout ça, et retrouver du temps pour nous, et moins mettre, on va dire, le travail au centre de notre vie, et plus, on va dire, bah, notre vie et le travail n'est qu'une partie de celle-ci.
C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup tu parles, on va utiliser l'IA pour mettre plus d'humains, alors qu'on a l'impression que des fois c'est le
Tout
contraire.
à fait, ouais.
Et c'est bien ce rapport-là.
C'est le but, c'est histoire de dire, ok, on a quand même énormément de taf de travail qui ont été créés depuis, on va dire, quelques années de là, qui sont considérés comme, selon un livre qui s'appelle Bullshit Jobs de David Graeber, comme des bullshit jobs, justement.
Voilà, ouais.
Et en France, c'est considéré, alors après, c'est débattable, hein, mais comme 50% du travail. Parce qu'il y a en gros 50% des tâches faites en général dans tous les travails qui sont à peu près automatisables. Alors évidemment, certaines tâches plus que d'autres, mais là on voit évidemment les personnes qui travaillent en support, du coup, support comment, client, etc., qui peuvent être remplacées par les chatbots. En tout cas, une partie de leur travail peut être remplacée et facilitée grâce à l'IA. Et ça va arriver dans plein, plein, plein de métiers différents.
C'est
On a
déjà arrivé. Là,
Ah, super.
j'ai pu avoir un service client où c'était, je cherchais une facture. On m'a demandé qu'est-ce que vous recherchez? Une facture. En 2 secondes, je lui ai donné l'année. Il m'a trouvé le
L'IA.
produit sans. On voit bien, enfin, c'était une IA.
On va faire la même chose dans plein d'autres métiers. Même, enfin, là, on se voit quand même, on a quand même un niveau de pire, enfin de comment ça s'appelle, de pertinence au niveau de l'IA qui est quand même assez impressionnant. On se rend compte que comment l'IA fait mieux le taf que des médecins pour déceler et analyser des symptômes. Alors que les médecins, encore une fois, ils peuvent être crevés, leur travail peut, on va dire, perdre en qualité au fur et à mesure de la journée, ça reste des humains, c'est normal.
Exactement, ouais, c'est
Par
ça.
contre, est-ce qu'on ne peut pas aider ces gens-là, qui travaillent déjà énormément, qui coûtent à la société, même si, encore une fois, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, mais qui coûtent énormément à la société, être aidés par l'IA pour leur faciliter leur travail?
Et c'est ce qui est en train de
Donc,
se mettre en place d'ailleurs.
alors, je pense qu'il y a beaucoup de récalcitrants, comme dans les avocats, comme dans plein, plein de domaines,
Ah oui, mais
dans la RIAN,
ça
mais
va
ça va arriver,
arriver,
tout
oui.
à fait.
Ouais. En termes de conseils à un débutant qui voudrait se lancer dans l'automatisation, ta petite boîte à outils pour pouvoir aider. Alors, boîte à outils, je dirais peut-être conseils de bon sens pour commencer.
Ouais, déjà, encore une fois, comme ce que je disais tout à l'heure, n'automatisez que ce que vous savez déjà à peu près faire. Donc, faites à la main, dans un premier temps, du coup, les tâches que vous devez automatiser. Donc, automatisez pas quelque chose que vous n'avez pas fait avant, en fin de compte. Après, il peut y avoir d'autres choses intéressantes à faire, telles que, outre les outils, c'est surtout savoir l'outil qui vous convient. Donc, je conseille évidemment un outil de base de données, un outil d'automatisation et un outil, on va dire, d'interface. Ça, c'est un peu les trois, si on veut, en sachant qu'on peut vraiment se concentrer sur un outil de base de données et après avoir les automatisations. Donc, en base de données, moi, j'ai mon petit préféré qui est Airtable, mais savoir utiliser Google Sheets est très, très bien aussi. Mais c'est vrai qu'Airtable est quand même super intéressant, surtout qu'ils ont un plan gratuit qui est quand même assez accessible et qui vous permet d'aller assez loin. Ils ont un design qui est super intéressant aussi et très, très sexy. Et le but étant de tester, vous de votre côté, ce que vous préférez entre Google Sheets et Airtable, avec ses avantages et ses inconvénients, et choisir celui que vous préférez. Ensuite, niveau automatisation, moi je conseille en priorité Make ou n8n. Make si vous êtes moins développeur, et si vous êtes développeur, n8n, vraiment allez-y, les yeux fermés. Très bon outil,
C'est plus complexe,
c'est
NuitN.
plus complexe,
Je l'ai
tout à fait.
pris en main, je l'ai
Ouais.
installé. Il y a ce côté moins fun,
Tout à
hein.
fait. Ouais. Encore une fois, ça ressemble beaucoup plus. Enfin, c'est fait pour les devs. C'est un
Ouais,
peu ça.
voilà.
Alors, pas fait pour les devs, mais je conseille
Dans
encore une fois
l'esprit.
des gens qui sont développeurs d'aller sur n8n. Ils retrouveront les mêmes mots, le même vocabulaire, les mêmes façons de faire, etc. Là où Make va être plus facilité pour les non-devs. Et vous pouvez aller quasiment aussi loin avec Make que n8n. On va dire 95% du travail fait sur Make, sur n8n peut être fait sur Make. Il reste encore 5-10% qui peut être fait sur n8n. Encore une fois, les 5-10%, vous aurez, à moins que vous deveniez, pardon, vraiment fort en automatisation, vous n'aurez pas besoin de passer à n8n. Donc, non-dev, Make, Dev, n8n, simplement sur
Donc,
ça.
Airtable,
Airtable, mon AMEG du coup sur ma partie. Et pour finir, on va dire c'est un outil de qui vient se plugger, enfin se brancher et du coup avoir une interface, quelque chose de visuel pour on va dire mettre en image et en exergue toutes tes données et toutes tes automatisations. Ça serait soit Airtable Interface, donc qui ont eux-mêmes en gros Airtable l'avantage c'est qu'ils ont des automatisations, des interfaces et du coup les données en un seul et même outil.
D'accord.
Vous pouvez aussi utiliser du coup, software qui se plug justement et qui se branche à ces outils-là de base de données pour faire de la visualisation de données, qui pour moi est, on va dire, un peu plus compliqué à mettre en place, mais plus complet, plus malléable. Et sinon, un autre qui pourrait être intéressant, si j'en ai un troisième à donner, je sais même pas si j'en aurais le troisième, parce qu'il y en a plein d'autres, ça dépend vraiment de votre besoin, mais...
Où tu situes Notion pour pouvoir...
Notion, en gros, Notion, c'est pas vraiment la même chose. Notion a une bonne capacité de base de données. Le problème de Notion, c'est quoi? C'est que leurs données sont beaucoup moins, on va dire, mises en avant, et, parce que c'est l'interface qui fait ça, hein, que Airtable. Si vous traitez beaucoup de données et vraiment, vous voulez vraiment traiter la donnée, dans ce cas-là, je préfère Airtable à Notion.
C'est ton chouchou.
Ouais, exactement. Mais j'adore Airtable, j'adore Notion, hein. J'adore Notion aussi. Le problème de Notion, c'est que, un, c'est très compliqué d'utiliser Notion en groupe avec des personnes qui ne savent pas utiliser Notion. Parce qu'en fait, l'avantage de Notion, c'est que tu peux tout faire. Mais le problème dans un outil que tu peux tout faire, c'est que tu veux faire n'importe quoi.
Ouais, c'est ça.
Et si tu ne
ouais.
sais pas comment fonctionne Notion, tu feras n'importe quoi.
C'est vrai que l'interface de Airtable, pour l'avoir vu en cours avec toi, c'est le côté structuré.
Exactement. Tu as beaucoup moins de choix, de possibilités. Là où Airtable, tu peux faire des choses vraiment à ta façon, avec tes templates. Enfin, c'est vraiment... Tu as beaucoup plus de créativité avec Notion. Mais du coup, tu es bloqué avec Airtable et c'est ce qu'on cherche en fait, hein, en fin de compte. Avec des personnes, on a besoin de trois boutons pour faire les actions, pas besoin de trucs alambiqués comme sur Notion.
Ouais, ça...
Le but de l'efficace, etc. Et c'est ce que j'aime avec Airtable et c'est ce que j'aime retrouver sur Airtable. Là où Notion, pour l'utiliser moi et pour avoir la flexibilité, j'adore. Dès que je commence à travailler avec quelqu'un qui ne sait pas utiliser Notion, là, je commence à perdre plus de temps en fait, à réparer les erreurs des autres personnes qu'en fait faire mon travail. Donc,
tout simplement.
Il y a en même temps, c'est du bon sens en fin de
compte. Oui, tout à fait. Ça pourrait être presque une conclusion, mais je vais te demander comment on fait pour te trouver sur les réseaux. Est-ce que tu as un site que tu voudrais mettre en avant de ce que tu fais, ou simplement ton LinkedIn, Théo Lefort
Ouais, ce serait sûrement sur LinkedIn dans un premier temps, parce qu'en fait, je lance des projets un peu tout le temps et j'en parle jamais vraiment précisément. Mais si je suis amené à parler de choses, ce serait principalement sur LinkedIn. Donc, je conseille plutôt les gens à aller sur LinkedIn. Mon site actuel, mon ancienne agence, n'est plus actif. Là, maintenant, je suis repassé freelance. Donc, le mieux, c'est du LinkedIn. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Potentiellement, même mon numéro, qui pourrait être mis là. Comme ça, vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Je réponds assez rapidement, normalement, que ce soit sur LinkedIn ou par WhatsApp.
Eh bien, écoute, je te remercie. Je mettrai tout ça dans le lien dans le blog Scrapo. Merci, Théo. Et puis, à la prochaine.
Merci.
Merci à toi.
Scrapping plus Scrapo égale Scrapo, le podcast du gros hacking pour débuter.